Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour un nouvel épisode de Hashtags. Ça fait un petit moment qu'on s'était pas parlé. Il s'avère que Stéphane et moi, on a été tous les deux pas mal occupés, mais on a enfin réussi à trouver un petit moment pour enregistrer. Donc comme d'habitude, je suis avec Stéphane. Salut Stéphane, comment ça va?
Salut Thomas, ça va? Et toi?
Bah écoute, ça va, on enregistre le vendredi matin, donc très tôt pour moi, un peu moins tôt pour toi, mais globalement avant ce qui s'apprête à être un très très long week-end de campagne avec à mon avis pas mal de choses encore qui vont se produire et puis une élection dans 4 jours, donc ouais, ça va être intéressant. Ça fait un peu le calme avant la tempête, enfin je sais pas comment est-ce que toi tu vois les choses, mais c'est assez spécial comme moment.
Ouais, mais complètement, parce que ça fait quand même, je pense, 4 ans que beaucoup attendaient ce jour de l'élection. Et puis des deux côtés, en fait, hein, c'est aussi, en gros, pour les États-Unis, on est dans une période de confirmation, en fait. Est-ce que l'élection de Trump en 2016 était une erreur, ou est-ce que c'était vraiment quelque chose que les Américains souhaitaient? Donc là, on aura notre réponse dans quelques jours. Donc c'est à la fois
Ouais, avec...
excitant,
Vas-y.
effrayant. On verra.
Ouais, c'est ça. Avec un climat qui est quand même particulièrement spécial aussi, hein. Enfin, je pense que les gens qui, à moins de s'intéresser, de absolument pas s'intéresser à la politique ou d'habiter sous un caillou, je pense qu'on a tous compris que, quelle que soit l'issue de l'élection, on s'attend quand même à ce qu'il y ait un minimum de remue-ménage, quoi. Et
Oui.
ça va pas forcément être le plus sans être alarmiste, à mon avis, ça va pas être l'élection la plus sereine de l'histoire. Ça, c'est clair.
Oui, mais en même temps, tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de gens, en tout cas aux États-Unis, qui regardent la semaine prochaine comme un, avec beaucoup d'espoir, en fait, de voir cette année tourner un peu de bord, parce que c'était pas forcément une année facile aux États-Unis, entre le coronavirus et les manifestations. Donc, je sais pas,
Ouais.
je pense que si Biden est réélu, enfin, est élu tout court, ça, en quelque sorte, tu vois, ça ouvre la voie à un futur un peu plus joyeux pour beaucoup d'Américains.
Ouais, ça c'est clair. Mais entre-temps, on sait que le transfert du pouvoir se passe qu'en janvier,
Ouais, exactement.
donc bref, il va se passer des trucs. Mais bon, on n'est pas tellement là pour vous parler politique, quoique, en tout cas, pas dans notre premier sujet. On va attaquer tout de suite parce qu'on veut essayer de faire ça en 45 minutes maximum. Et on va parler de Social Dilemma. Donc Stéphane, je sais que tu l'as vu.
Ouais.
Qu'est-ce que t'en as pensé?
Alors, moi, en fait, j'ai beaucoup aimé ce format, en fait,
Faut qu'on précise aussi que ce qu'est
ce que
The
c'est
Social
exactement,
Dilemma.
ouais. Parce que, enfin, je l'ai vu il y a quelques heures, donc finalement, en fait, pour moi, c'est frais. Mais si vous ne l'avez pas vu, ou si vous l'avez vu et que vous avez besoin d'un petit rafraîchissement,
Rappel.
rappel, Social Dilemma, c'est un film sur Netflix, c'est un documentaire drama. Qui en quelque sorte décrit l'impact des réseaux sociaux sur notre espèce, enfin sur notre société. Et moi j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que c'est quelque chose dont on parle beaucoup dans la Silicon Valley entre nous, parce qu'on est dans ce milieu de la tech, et c'est quelque chose aussi dont on parle beaucoup dans le monde politique, mais c'est pas forcément quelque chose qui est présent au quotidien pour les gens qui font pas partie de cette industrie. Et je trouve que ce film est bien fait dans le sens où on a des interviews de gens qui sont vraiment, enfin qui ont été comment dire, aux premières lignes de la création de ces réseaux sociaux. Et en même temps, il y a un petit côté moins documentaire et un peu plus fiction où il y a quelques scènes où on voit en fait un peu les algorithmes personnifiés et prendre des décisions comme si c'était des êtres humains, mais en fait on sait bien que c'est pas des êtres humains derrière des écrans à la Mission Control à la NASA, mais ça reste quand même des algorithmes qui prennent des décisions dans un but qui est finalement commercial pour les réseaux sociaux. Et donc je trouve que c'est vraiment intéressant la façon dans laquelle ils ont construit ce film Et même si on en parlait hier, il y a quelques moments où tu te dis bon, ça va un peu, c'est un peu trop, comment dire, dans la fiction, c'est pas vraiment ce qui se passe dans la réalité. Je trouve que c'est quand même un bon moyen de faire comprendre aux gens qui font pas partie de cette sphère que, enfin, de l'impact que Facebook a et Twitter sur leur vie en fait.
Ouais, et d'ailleurs, on dit Social Dilemma, donc en français, le titre c'est Derrière nos écrans de fumée, et il est aussi disponible sur Netflix en France. Ouais, je suis un peu partagé en fait, parce que je suis d'accord avec toi, il y a un côté, comment dire, pédagogique, et on sent que bah oui, ça s'adresse, comme tu dis, à des gens qui baignent pas dans la sauce de la tech depuis des années à longueur de journée. Et c'est vrai que bah on sent qu'ils ont quand même essayé de simplifier ou en tout cas d'expliquer les concepts le plus il y a le ouais le plus simplement possible et bon de ce côté-là c'est quand même important parce qu'en effet on a parlé de l'élection, ce qui s'est passé en 2016 c'est principalement à cause de comment dire du caractère négatif des réseaux sociaux et de Facebook en particulier et Facebook et Instagram en particulier. Malgré tout, il y a quand même un espèce de ton sensationnaliste qui est pas forcément toujours bienvenu, je trouve. Et c'est vrai que des fois, bah, t'as envie de dire ouais bon, enfin là vous exagérez les choses. Là c'est clairement beaucoup trop scénarisé et c'est beaucoup trop simplifié quoi. Et c'est clair qu'il y a un parti pris hein, de la part des réalisateurs du documentaire. Et enfin c'est vrai que des fois enfin moi j'avais quand même un peu l'impression qu'il poussait un petit peu les choses un peu trop loin en fait et que ce qu'ils oublient de dire en fait enfin ou en tout cas ce sur quoi ils insistent pas c'est que comment dire il y a peu de enfin moi j'ai envie de dire il y a peu de malveillance intentionnelle et en fait on est dans cette situation où et enfin ils le disent un petit peu hein, il y a quand même un moment où on voit les gens qui disent ouais je pensais que c'était une force pour le bien et en fait je suis plus complètement sûr de ça mais c'est pas comment dire c'est pas comme des sociétés enfin, je pense que on arrive à un point où en fait la tech est dénoncée comme n'importe quel secteur qui a été dont le capitalisme s'est emparé au cours du XXe siècle quoi. Mais c'est pas exactement comme je sais pas une usine chimique qui balance des fûts de matières toxiques dans la rivière. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, le
Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais en même temps, tu vois, quand j'ai vu ce documentaire à la fin, j'avais vraiment l'impression d'avoir regardé un documentaire sur la production masse de burgers aux États-Unis, tu vois. Et je trouve qu'on est vraiment dans le même thème de il y a forcément, bien sûr, il y a des secteurs dans l'industrie de la tech qui sont on met pas toute la tech dans le même panier. Mais ceci étant dit, il y a quand même ces secteurs de réseaux sociaux qui s'apparentent un peu à ce qu'on a dans le secteur alimentaire de la malbouffe, tu vois, la production de masse, qui est pas forcément sain pour l'être humain. Mais au départ, c'était quand même, bah, il faut nourrir les gens, ça coûte moins cher. Sur le papier, au départ, la production de masse de nourriture n'a rien de enfin, c'est pas insensé, tu vois. Il y a des gens qui ont besoin de manger. C'est l'optimisation. Et je trouve que dans les réseaux sociaux, c'est un peu la même chose, tu vois. Au départ, oui, c'est vrai que c'est connecter les gens, c'est faire en sorte de réduire les distances physiques entre les gens grâce à Internet. Mais il faut pas oublier que, ben, tu vois, le secteur de la malbouffe, ben, finalement, on appelle ça de la malbouffe parce que ça a un impact sur notre santé. Et je trouve que les réseaux sociaux, c'est un peu la même chose. Oui, il y a des côtés positifs. Peut-être que ça a été créé, et sûrement d'ailleurs, avec cette idée de connecter les gens. Mais il ne faut pas ignorer le fait que, ben, finalement, il y a un aspect négatif qui touche nos démocraties, qui touche la santé des gens, hein, parce que, enfin, les trucs de désinformation sur les vaccins et tout, c'est typiquement lié aux réseaux sociaux. Et à la fin de ce documentaire, en fait, il y a la question qui est posée de est-ce qu'on ne devrait pas réguler ça? Comme des choses qu'on a régulées dans ben, d'autres d'autres problèmes de société qu'on a régulés. Est-ce qu'on ne devrait pas, par exemple, interdire les réseaux sociaux? Et je trouve que même si ça va trop loin, cette question de, ouais, je pense pas qu'on doive interdire les réseaux sociaux. Je trouve que que la question se pose quand même, tu vois, de à quel moment en fait on doit interdire les réseaux sociaux? Parce que je pense qu'une fois qu'on a répondu à cette question, ça permet de se repositionner sur bah, où est-ce qu'est la limite, tu vois. Parce que pour le moment, on n'a pas de limite, on n'a pas de régulation. Les réseaux sociaux font ce qu'ils veulent, en tout cas aux États-Unis. Et je trouve que c'est problématique. Parce qu'on laisserait pas d'autres industries faire la même
Ouais,
chose, tu vois.
je suis d'accord avec la deuxième partie de ce que tu disais. Qu'est-ce que j'ai envie d'ajouter? Je pense malgré tout quand même que il y a un tout petit peu trop de simplification en fait dans le documentaire et que ça nuit quand même un tout petit peu au message quand tu connais la question. Les choses sont un peu moins simples que ce qu'il présente.
Ouais, mais je me demande si en fait on n'a pas cette impression parce qu'on fait partie de ce domaine, tu vois. C'est un peu comme si on faisait, je sais pas si on était éleveur à la campagne et qu'on regarde un documentaire
Sur la malbouffe.
sur la malbouffe et tous végans, tous végétariens et on se dit bah non, mais en fait ça ignore un
Ouais.
peu ce qu'on fait nous et je trouve que ça simplifie un peu le problème. Et je pense qu'on est typiquement, on est vraiment dans ce même domaine du. Je pense que ouais, quand on a regardé ça, c'est un peu comme si je sais pas, ouais, on était restaurateur et qu'on avait des burgers dans notre menu et qu'on regarde un documentaire sur McDo, tu vois.
Ouais, c'est possible. C'est possible.
Parce que je pense que dans n'importe quel documentaire qu'on regarde, il y a de la simplification parce que tu peux pas tout lire dans un film, tu
Ouais,
vois. Et puis
mais
le
après, il y a quand même des parties prises qu'ils ont
vas-y.
fait, tu vois. Par exemple, le coup de la salle de contrôle, tu sais, un peu comme Inside Out, là, le documentaire de Pixar. Et bon, tu te dis, bon, ça, c'est pas forcément nécessaire, tu vois. T'as pas besoin de représenter une entité qui va chercher à te réengager, etc., etc. Enfin, et à la limite, tu vois, dire que bah, c'est un peu toujours pareil, c'est un peu les machines, c'est un peu l'intelligence artificielle va nous détruire, et puis tu vois des images de Terminator. Enfin, je pense que des fois, simplifier les choses comme ça aide pas forcément au propos, en fait, parce que les, comment dire, j'arrive pas à trouver j'arrive pas à trouver mes mots. Les pressions et les pouvoirs qui sont en jeu, en fait, c'est plus sophistiqué que ça, en fait. C'est pas simplement Facebook qui a décidé que en gros leur objectif c'était de nous pousser du contenu qui était le plus choquant possible pour nous engager. En pratique, même si en pratique c'est ce qui arrive, c'est pas l'intention initiale, en fait. Et ils sont passés un petit peu vite au-dessus, enfin, ils sont passés là-dessus un peu vite, et du coup, je sais pas, ça me pose un petit peu problème, parce que tu pars de là et tu te dis, bon, bah voilà, en gros, bah les réseaux sociaux c'est mauvais, et de toute façon, tout ce qui les intéresse c'est de faire de l'argent avec nos données. Bah c'est le point d'arrivée, peut-être, à gros traits, mais c'était pas du tout le point de départ, et en fait le cheminement pour arriver à cette situation-là, finalement, est presque plus importante que le résultat final. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je suis d'accord qu'il y a pas le côté cheminement. Mais ceci étant dit, ce que tu décris, moi, j'ai retrouvé complètement dans le film. Le fait de voir les personnes, les humains interviewés, dire leur espoir, en fait, dans ce qu'ils étaient en train de créer et de voir leur but financier et ensuite de voir ces algorithmes, interpréter, en fait, le but financier sur, ben voilà, on va envoyer des notifications et tout. Je trouve que y a rien de faux dans tout ça. Après, il y a le cheminement de comment est-ce qu'on est arrivé à ces algorithmes qui on pourrait l'avoir mieux décrit dans ce film. Et je pense que ouais, c'est une partie qui manque. Mais je pense que le côté le fait de montrer que les êtres humains et les algorithmes partagent la même idée de il faut faire de l'argent, mais ont une interprétation différente. Je trouve que c'est le cas finalement dans ce qui se passe.
Ouais.
Parce que tu vois, enfin, quand tu likes, quand tu aimes une photo de Trump sur
Tu peux
un
dire liker.
compte, quand tu C'était il y a 2 ans, je crois. J'étais dans un train en revenant de Paris en Normandie, et j'étais à côté d'une femme qui vivait en Suisse, et on parlait des réseaux sociaux et tout. Et en fait, elle me disait qu'elle n'arrive pas à comprendre comment est-ce que à chaque fois qu'elle arrive sur son compte Instagram, dans son tab Explore, elle a des trucs qui sont vraiment n'importe quoi. Et en fait, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait créé un compte Instagram neuf, donc on n'avait rien fait d'autre. Et on est allé sur le compte de Trump et on a liké une photo de Trump, et l'onglet Explore, d'exploration, c'était que du contenu, enfin c'était n'importe quoi, tu vois, c'était du Trump, c'était du fake news, c'était n'importe quoi. Et bien sûr que ça n'a jamais été dans l'idée d'Instagram de dire, bah voilà, si tu likes une photo de Trump, on va te pousser des fake news, tu vois. Mais toujours est-il que pour les ingés d'Instagram et pour Instagram, ils cherchent à ce que tu sois plus engagé dans l'application. Ils voient qu'il y a un contenu qui t'engage, et l'algorithme finalement t'envoie ce genre de contenu. Et donc je pense que le point de départ c'est le même, mais les humains et l'algorithme ont une interprétation différente, et je trouve que ça tu le vois bien dans le film.
Je pense qu'on sera pas complètement d'accord, mais bon, globalement, on vous recommande malgré tout de le regarder. 7,7 sur IMDb, donc globalement un bon score. Et puis c'est sur Netflix, donc voilà, si vous avez Netflix, si vous avez pas Netflix, empruntez le mot de passe et le login de quelqu'un. Mais si vous avez Netflix, il est disponible en France. Au passage, est-ce que tu as lu toi, Stéphane, The Age of Surveillance Capitalism? Ça te dit quelque chose?
Non, mais je crois que tu m'en avais
Ouais,
parlé.
je l'ai pas lu encore, mais ça fait partie des bouquins que j'ai envie de lire. Et justement, c'est un peu le bouquin de référence sur le sujet. Le surveillance capitalism, c'est quelque chose dont on entend beaucoup beaucoup parler en ce moment. Donc, je pense que c'est un mot-clé, le capitalisme de surveillance. Je pense qu'on traduit comme ça en français. Et l'idée, c'est ça, en fait, c'est de se retrouver dans une situation où on a des multinationales qui font de l'argent à partir de l'observation des comportements des utilisateurs. Et donc voilà, donc c'est clairement pas un sujet nouveau, mais on va dire que The Social Dilemma contribue à mettre ça dans le domaine public en exposant ça au grand public. Donc ils le font de façon, comme on dit, avec quelques raccourcis, mais malgré tout ça vaut le détour. Donc voilà.
Ok. Bah, je le rajouterai dans ma longue liste de livres à lire.
On passe au sujet suivant.
Ça marche.
Donc on passe à le sujet des publicités politiques. Donc un sujet d'actualité s'il en est. Et donc est-ce que tu as lu l'article que j'ai partagé, Stéphane? Donc voilà. Donc c'est un article en fait. C'est un article de The Markup qui est une organisation que je ne connaissais pas. Faut toujours faire attention quand on arrive sur un site qu'on ne connaît pas essayer de savoir d'où est-ce qu'ils parlent et quel est leur point de vue et se méfier de comment dire du positionnement des auteurs de la publication en question. Donc c'est pas un site de news, mais c'est une organisation, et leur tagline quand on va sur themarkup.org, c'est Big Tech is watching you and we are watching Big Tech. Donc autant vous dire qu'on est clairement en plein dans le sujet qu'on vient d'évoquer. Et donc voilà, donc je suis tombé en gros sur The Markup par l'intermédiaire de je sais plus comment ça s'appelle, une organisation qui
First
First Draft, c'est
Draft.
ça. Qui est une organisation qui, elle, s'occupe essentiellement de la lutte contre la désinformation. Et donc The Markup se focalise en particulier sur la tech. Ouh, il y a quelque chose sur la Prop 22 qui me concerne directement pour le boulot. Il faudra que j'aille regarder ça. Mais au passage, donc pour revenir sur ce dont on parle, donc l'article que j'ai partagé en question, c'est sur le prix des publicités pour les campagnes politiques et en particulier les campagnes Facebook et Instagram de Joe Biden d'un côté et Donald Trump de l'autre. Donc voilà, donc on sait que bah depuis la première ou la deuxième élection d'Obama, la première je crois, enfin les médias sociaux et les sites, les réseaux sociaux ont été extrêmement utilisés depuis quasiment 15 ans maintenant pour les campagnes politiques. Mais il y a eu clairement une accélération. Et à tel point que, en gros, on a tellement accéléré qu'on a fait une petite sortie de route en 2016. On vous en a suffisamment parlé. Les réseaux sociaux ont été instrumentalisés et weaponisés. Je sais pas comment est-ce qu'on dit weaponisés en français. Par des puissances étrangères et alors après ça reste pas complètement prouvé, mais en tout cas il y a de fortes suspicions pour que c'est un des facteurs qui ait fortement aidé à l'élection de Trump en 2016 et on a en particulier, on vous a parlé de Internet Research Agency et de Cambridge Analytica, etc., etc. Et en particulier l'outil qui permet aux campagnes d'être super efficace sur les réseaux sociaux, c'est l'aspect micro-targeting ou le micro-ciblage. Je pense qu'on dit micro-ciblage en français. Stéphane, tu nous expliques un peu comment ça fonctionne?
Le
Ouais,
micro-ciblage?
si tu veux.
comment ça fonctionne? Ben, en gros, les réseaux sociaux créent un portrait robot en fait de qui tu es. Donc, ce que tu aimes, quel type de personne tu es, ton genre, ton âge,
Où tu habites?
ton lieu
Ouais.
aussi, où est-ce que tu résides, et enfin plein de petites données comme ça. Et en fait, quand tu viens en tant que compagnie ou politicien et que tu cherches à mettre des publicités qui soient visibles, bah, en fait, avant même d'envoyer ta publicité, tu décris en fait un portrait robot de qui est de type de population que tu veux cibler. Donc, par exemple, tu peux dire, bah, je veux cibler les hommes de 35 à 45 ans qui aiment regarder le football. Et donc Facebook en fait va prendre la publicité et va faire en sorte que en fonction du prix que tu mets sur ta publicité, en fait tu vas plus ou moins être montré, enfin ta publicité va être visible à ce type de population. Donc Facebook ne, en aucun cas Facebook ne vend tes données à ses publicitaires et ils sont pas forcément sûrs à 100% que ta publicité sera visible à ce groupe de personnes. Mais c'est l'idée
Ouais.
en fait. Et c'est pour ça que la publicité ciblée coûte plus cher que le fait de simplement mettre une bannière sur un site, parce que t'as ce côté ciblage. Et en plus, et ça c'est un peu plus comment dire, c'est un peu plus controversé, mais Facebook, de façon plus ou moins honnête, va te permettre de savoir est-ce que vraiment les gens de ce groupe ont cliqué sur ta publicité et savoir l'interaction. Et donc du coup c'est ça aussi qui justifie le prix, mais en même temps ça a été prouvé que Facebook plusieurs fois a menti sur les données, donc
Ouais, c'est un sujet qui est extrêmement compliqué. Il y a énormément d'argent en jeu. Alors juste pour parler par exemple de cette saison électorale aux États-Unis. Et c'est marrant en France de se dire que la publicité politique est interdite. Enfin, on est clairement dans un monde complètement différent ici, puisque typiquement donc cette saison électorale, The Markup estime qu'apparemment t'as 7 milliards de dollars qui va être investi juste pour la publicité sur Facebook, il me semble. Attends, toujours vérifier ce qu'on dit avant de le dire. Là, je viens de faire le contraire.
Je pense que c'est la télé. La télé coûte énormément cher. Non, je pense que c'est la
T'es
télé en
sûr de
fait.
ça?
Ouais, c'est 420 millions de
Ah, c'est ça,
dollars pour
pardon, ok,
Facebook.
ouais. Donc voilà, donc je viens de dire une bêtise en direct. Donc ouais, 700 7 milliards de dollars, c'est juste les publicités télé. Mais c'est quand même phénoménal quand tu penses quoi. Enfin, en France, les histoires de dépassement de campagne de la campagne de Sarkozy à l'époque, on parlait de quelques millions ou quelques dizaines de millions. Donc là, enfin ça a absolument rien à voir et rien que pour les amis Biden et Trump, c'est 183 millions de dollars, 183 millions qui vont être dépensés juste sur Facebook à eux deux. Et 420 millions si on compte bah en fait toutes les publics, toutes les élections locales en fait qui se passent en même temps, c'est ça qu'on comprend pas forcément en fait vu de
Ouais.
France. Quand on vote ici en fait l'élection, ce qu'ils appellent l'élection générale, on vote pour plein de choses, aussi bien des référendums locaux que l'élection du shérif, que l'élection et l'élection du shérif, hein, ça paraît un peu Far West, mais en fait non, il y a partout où on est bon, on va pas rentrer dans les détails, mais en gros, il y a plein d'endroits où en fait on a un shérif et donc le shérif est élu en fait. Et pareil pour les ce qu'on appelle le school supervisor, donc c'est je sais pas l'équivalent du recteur en France. Enfin, c'est compliqué à décrire, mais en gros, vous votez pour plein de gens au niveau local et aussi plein d'initiatives, comment dire, de référendums locaux. Et donc tout ça, en fait, ben tous ces gens-là font campagne, en fait.
Et c'est
Donc
extrêmement problématique parce que, en fait, vu que tout se passe en même temps, toutes les campagnes sont en compétition pour l'espace, sur les réseaux sociaux, à la télévision. Donc ça fait monter tous les prix. Et finalement, quand tu vas voter, tu as tellement de cases à cocher que finalement, en fait, le projet ne compte pas forcément. Il faut juste que tu te souviennes du nom de la personne, en fait, tu vois. Donc c'est vraiment une course à est-ce que mon nom a été assez visible pour que les gens se souviennent de mon nom quand ils vont voter, tu vois.
Ouais, c'est ça, exactement. Et ouais, tout le monde se bat en fait pour ton attention. Et puis ouais, même voter, hein, ça prend un petit peu de temps. T'es obligé de prendre le temps de regarder. Alors il y a des guides, donc enfin pas forcément chaque parti, mais il y a des comment dire, des organisations annexes au parti qui éditent des guides pour chaque région et qui en gros disent bah en particulier le comment ça s'appelle le Progressive Voter Guide qui est un peu la référence en la matière, donc côté démocrate, qui est édité en fait. Il y a une version dans chaque pas chaque circonscription, mais en gros chaque zone en fait, et qui te dit bah pour tel est notre point de vue pour telle et telle proposition, quel est notre point de vue pour tel et tel candidat, et ça t'aide entre guillemets à décider en te disant bon, moi je suis aligné avec tel parti, ou je suis aligné avec tel idéal, et donc du coup bah il y a des trucs sur lesquels j'ai une opinion propre, et puis il y a des trucs sur lesquels j'ai pas forcément d'opinion. Donc je vais suivre ce qu'ils recommandent. Et puis t'as des gens aussi qui disent bah moi je vote que pour le président, et puis le reste je m'en fiche, ou je vote non à toutes les propositions. Mais bon, tout ça c'est ouais c'est ça ça rend vraiment l'élection très 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 compliquée en fait.
Et du coup, on voulait parler de...
Et pour en revenir sur les prix des campagnes, en fait, il s'avère que il semblerait que Trump paye beaucoup moins cher pour des campagnes similaires, ciblant des publics similaires que Biden. Et donc, ça nous pousse un petit peu à regarder en fait comment est-ce que ces campagnes sont évaluées. Donc, comme tu dis, c'est un système d'enchères en fait. Donc, quand tu crées une campagne, donc faut que tu vas créer les visuels en fait, hein, de campagne. Donc, tu vas créer ce soit une bannière ou comment dire, le texte en fait que tu veux afficher à côté de la publicité sur Facebook ou Instagram. Tu vas après donc cibler une population. Et d'ailleurs, c'est assez dingue, mais alors Google récemment a enlevé les affiliations politiques et les enregistrements des votes comme critère de ciblage. Donc tu vois, en France on dit le vote est secret. Je pense, j'ai pas vérifié, mais il me semble qu'aux États-Unis c'est pas le cas en fait. Il me semble qu'aux États-Unis le vote n'est pas secret en fait.
Et oui, ça dépend d'où tu es, mais je sais que j'ai des amis en Ohio où tu peux savoir qui a voté pour qui, en fait.
Ouais, voilà, c'est ça. Ce qui encore une fois hein, nous paraît complètement délirant. Alors je sais pas si c'est un... ouais, je sais pas si c'est ça dépend des endroits, mais clairement le vote, non seulement en tout cas il est, je sais pas s'il est secret partout, mais donc il y a des endroits où il ne l'est pas, et donc du coup c'est bah, public en fait. On peut savoir pour qui t'as voté, et c'est des données publiques, de la même façon que je sais pas le prix de ta maison ou ce genre de choses. Enfin ça fait, ou le cadastre ou ce genre de choses, tu peux accéder à ça. Et aussi ouais, tu peux savoir si t'as voté en fait, pareil. Alors qu'en France encore une fois c'est alors c'est peut-être un tout petit peu différent parce qu'il y a des registres pour t'empêcher de voter deux fois, mais il me semble que ces registres, si t'as une société qui cherche à accéder à ces registres, on va lui dire non, c'est pas possible quoi. Alors qu'ici, tu peux savoir si ton Si ton vote a bien été pris en compte, par exemple, ce qui est assez utile en ce moment avec les histoires de vote par correspondance et tout ça. Mais voilà. Donc et donc du coup, Google, il y a un an et demi, je crois, a retiré la possibilité de savoir pour qui tu avais voté et d'utiliser ça comme ciblage. Il n'est pas mention de ce que fait Facebook, donc j'ai pas vérifié, mais c'est pas impossible que Facebook puisse utiliser ça aussi pour le ciblage. Donc clairement, tu peux voter, enfin tu peux cibler les gens qui ont voté pour Trump, ou tu peux cibler les gens potentiellement qui sont démocrates mais ont rejeté Hillary Clinton. Alors c'est pas directement marqué de cette façon-là, mais tu peux, en étant un petit peu intelligent dans ton ciblage, tu peux réussir à faire ce genre de choses. Et il s'avère donc que Trump arrive à pousser des publicités de façon un peu plus compétitive, un peu moins chère que Biden. Et donc quand tu le lis un petit peu, tu te rends compte que déjà le système est très opaque en fait finalement. Parce que l'article prend l'exemple de la télé. Aujourd'hui, la télé, t'es un candidat, tu veux faire telle pub à telle heure sur telle. On parle de marché en fait aux États-Unis parce que toutes les télés sont. Il y a des télés, enfin des réseaux nationaux, mais après il y a des déclinaisons des télés sur chaque région en fait. Et la télé que tu regardes à New York, c'est pas la même que la télé que tu regardes. Enfin, c'est un peu l'équivalent de France 3 en fait en France, mais multiplié par le nombre de networks. Et donc du coup, quand tu veux faire de la publicité, tu fais de la publicité sur un marché. Et donc les télés locales vont demander le même prix en fait à chaque candidat, quoi. Quel que soit le contenu de la pub. Sauf que Facebook, je suis un peu long, mais je te redonne la parole après. Sauf que Facebook et Google en fait ont ce qu'ils appellent un facteur de ce qu'ils appellent la qualité en fait de la pub, et l'algorithme qui décide du prix de la publicité ne prend pas seulement en compte le ciblage et la quantité de personnes que tu veux cibler, et les critères que tu utilises pour cibler les gens, et la région par exemple qui varie, enfin fait que en gros parler à quelqu'un à New York ou parler à quelqu'un dans l'Ohio, pour reprendre l'exemple de l'Ohio, c'est pas la même chose, et ça coûte pas le même prix. Et les choses s'inversent potentiellement au moment des campagnes politiques, parce que pour le coup là, dans l'Ohio, les gens sont beaucoup plus ciblés que potentiellement à New York, qui est pas forcément un swing state, enfin qui est pas du tout un swing state. Mais du coup, donc c'est pris en compte, ces critères sont pris en compte, mais on prend aussi en compte le critère de qualité en fait de la publicité. Et donc, et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si les gens sont peu engagés avec le proxy en fait pour évaluer la qualité de la pub, c'est est-ce que les gens interagissent avec ta publicité? Et en gros, si tu pousses des publicités pour des produits qui sont moisis ou des offres qui sont pas intéressantes et que ça intéresse pas les gens, en gros, Facebook va faire en sorte que ce soit plus difficile et potentiellement plus cher pour toi en fait de faire cette publicité. Et finalement, ça part d'un principe d'un principe intéressant, c'est l'idée de se dire on veut faire en sorte que les gens ne soient pas bombardés de publicité pour des produits inintéressants, même si finalement les gens qui poussent ces publicités-là payent pour les afficher. Et on veut être sûr que, ok, ils payent, mais ils poussent aussi du contenu de qualité. Et l'effet pervers de ça, en fait, c'est que l'engagement qu'il y a sur les réseaux sociaux autour de Donald Trump et de sa présidence est beaucoup plus important. Et c'est positif et négatif, en fait. C'est ça qui est assez fascinant. Et Social Dilemma en parle un petit peu. À la limite, et on va même presque dire que l'engagement négatif finalement a plus d'intérêt que l'engagement positif, parce que l'engagement négatif est plus intense en fait de la part des gens qui sont sur les réseaux sociaux que l'engagement positif. Ouais. Voilà, j'ai beaucoup parlé. Je te laisse reprendre.
Non, mais t'as totalement raison. Et je pense aussi c'est les publicités que Trump publie ont tendance à être beaucoup plus controversées, et donc du coup si t'es pro-Trump, t'as tendance à liker et partager, et puis si t'es contre lui, t'as aussi tendance à partager avec un petit commentaire disant que c'est n'importe quoi. Donc du coup effectivement, je trouve que, mais d'une façon générale, je trouve que la campagne de Biden est beaucoup plus ennuyante comparée à celle de Trump, et parce qu'elle est probablement aussi beaucoup plus normale. Et, ouais. Et donc du coup, ça se reflète sur ce qui se passe au niveau des engagements, de l'engagement sur les réseaux sociaux. Mais d'ailleurs, ça se voit aussi quand il y avait les débats. Hein, tu voyais bien que les propos de Trump étaient beaucoup plus critiqués ou relayés parce que c'était parce qu'il dit juste n'importe quoi, tu vois. Donc ouais, je pense, je sais pas trop comment résoudre ce problème. Je pense qu'une solution, ça serait peut-être de d'interdire tout simplement les publicités politiques et de leur donner des espaces. Tu sais, comme à la télé ou en France, où tu vois tous les spots des candidats à un créneau et il n'y a pas beaucoup plus de liberté que ça, en fait, tu vois, ils sont tous alignés.
Ouais, mais encore une fois, comment dire, le paysage de campagne politique aux États-Unis est beaucoup trop morcelé en fait pour faire ce genre de choses, je pense. Enfin, parce que comme on l'a dit, on n'a pas parlé des PAC, on n'a pas parlé de PAC, c'est Political Action Committee, qui sont en gros ces espèces de grosses associations qui se créent en parallèle des candidats en fait, et donc du coup qui lèvent de l'argent pour un candidat sans affiliation directe avec le candidat. Et typiquement d'ailleurs, enfin c'est assez marrant, hein, typiquement un PAC normalement ne peut pas coordonner, ne peut pas se coordonner avec une équipe de campagne. Donc ils vont en gros lever de l'argent en disant bah nous on est pour je sais pas la politique pro-job de Donald Trump par exemple. Je mets des gros guillemets partout. Et donc, du coup, bah, ils font de la pub pour, en gros, Donald Trump et à quel point, en gros, il est bénéfique pour l'économie. Mais sauf que, en théorie, ils sont pas censés se concerner, se consulter avec l'équipe de campagne pour discuter des sujets et tout ça. Mais ils peuvent lever beaucoup plus d'argent en fait que les candidats. Et déployer cet argent, ben, en général, alors jusqu'à une certaine époque, c'était dans les spots télé, mais là, de plus en plus, c'est sur les réseaux sociaux, quoi. Et c'est ça d'ailleurs qui, on parle des, enfin, on parle des, je pense que les prix qu'on donnait tout à l'heure, enfin les montants qu'on donnait tout à l'heure, 183 millions pour Trump et Biden, je pense que c'est les campagnes en fait, mais les PAC, c'est beaucoup plus que ça, quoi. Mais je sais pas, ouais, je sais pas trop. Enfin, l'idée de, enfin, finalement, nous, ça fait très soviétique en fait comme approche de dire, enfin, soviétique, sachant que, ouais, soviétique, c'était pas exactement ça parce qu'il y avait pas forcément de campagne politique. Mais tu vois, c'est en gros, tout le monde est logé à la même enseigne, tout le monde a le même accès au, et enfin, je dis pas ça de façon péjorative, hein, enfin, même si j'ai utilisé le terme soviétique qui est un peu péjoratif, mais je pense que c'est une très bonne chose en fait de donner un accès égal à la radio, à la télé, à tous les candidats. Mais clairement, c'est pas l'ADN du pays, quoi. Enfin, je pense que réguler la, enfin, tu vois, on en a parlé tout à l'heure. Réguler les réseaux sociaux, c'est un truc que, à mon avis, on n'est pas encore complètement prêt à faire. On va y arriver, mais ça va probablement prendre encore quelques années. Donc, réguler la publicité politique sur les réseaux sociaux, alors là, c'est carrément un autre problème, quoi.
Ceci dit, il y a quand même des candidats, tu vois, genre Alexandria Ocasio-Cortez qui pousse à cela, Elizabeth Warren aussi, donc on verra.
Ouais, on verra. Ouais, je dis pas qu'on va pas y arriver, mais je dis juste que ça va prendre un petit peu de temps. Mais ouais, comme tu dis, on verra. On passe au follow.
Ça marche.
Comme ça, on reste dans les temps. Est-ce que... Allez, je commence. Je commence. Je
Allez.
commence. Est-ce que t'es sur TikTok, toi, Stéphane?
Alors, j'ai installé là, j'ai C'était notre premier sujet, je crois, du premier épisode de
Ouais, ouais, ouais,
podcast. Et
ouais.
donc, je l'utilisais avant, j'ai installé il y a très longtemps, et puis je l'ai réinstallé la semaine dernière. Et je crois que c'est l'application que j'utilise le plus actuellement sur mon iPhone, donc j'hésite à la désinstaller, surtout après avoir regardé le film hier.
Ouais, TikTok. D'ailleurs, un hein, TikTok, hein, comme on a bien vu, hein, tout s'est passé comme prévu, ils ont été rachetés par Oracle. donc ouais, TikTok, dont on vous a parlé pas mal de fois, là, et en particulier récemment, comme vous l'avez vu, il y avait quand même beaucoup de bluff de la part de l'administration Trump, et honnêtement, le projet de rachat est complètement à plat aujourd'hui, donc ouais, faut pas s'attendre à ce qu'il y ait beaucoup de changements. Bref, mais bon, j'enchaîne. Donc TikTok, super rapidement, il y a un compte qui s'appelle Easy Magic, et en fait, ils sont assez doués pour vous montrer en fait comment les tours de magie marchent. Donc si vous vous êtes toujours demandé, vous avez un pote magicien par exemple, wink wink Stéphane, et vous vous êtes toujours demandé mais comment il fait quoi? Comment c'est quoi le truc? Et ben franchement, Easy Magic, ça vous ruine tout, mais au moins vous comprenez un petit peu comment les tours de magie fonctionnent. Et donc voilà, c'est, je sais pas où ils sont ces deux Asiatiques. Mais enfin, ils sont assez doués et le compte est vraiment marrant quoi. Donc voilà, Easy Magic avec deux Y. On mettra les liens dans les notes. Et toi, Stéphane?
Moi, c'est un compte Instagram Mais d'ailleurs, il est aussi sur TikTok, en fait, il s'appelle Devon Rodriguez, et c'est un artiste à New York, en fait, qui prend le métro et qui dessine les gens dans le métro. Donc, tu as peut-être déjà vu ses vidéos ou ses photos. Et c'est assez cool, en fait, parce qu'il fait vraiment le dessin, le temps du trajet, et il donne des fois le dessin directement à la personne. Et c'est assez impressionnant.
Ah, c'est cool. Ok, donc c'est un
Donc,
artiste du métro.
ouais, il est sur Instagram, mais il est aussi sur TikTok. Donc,
Ouais, c'est des dessins qui sont super, super réalistes. Ah, c'est assez chouette. Ok, bon bah écoute, merci. On arrive à la fin. Stéphane, si on veut te retrouver sur les réseaux sociaux, ça se passe où?
Bah sur Twitter, j'ai un compte TikTok, mais j'ai rien dessus, donc on va rester sur Twitter. Je suis Stéphane sur Twitter.
Ok,
Et
et moi c'est
toi?
@lethargicpanda sur Twitter et on est toujours sur hashtags tiré du bas spot. Hop. Tu vois, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait d'épisode. Je recommence. Hashtags tiré du bas pod sur Twitter et aussi hashtags podcast sur le web. Je suis même plus sûr, c'est la honte. #podcast.com sur le web où vous retrouverez toutes les archives et les notes de l'émission. Cool. Bon, écoute Stéphane, bah ça m'a fait plaisir. On essaie de se reparler rapidement.
Ça marche. Ciao.
Allez, à la prochaine. Ciao.
Thank you.